Chapitre 15. À l'heure convenue, je passai le Rhin, et la première personne que je rencontrai sur le bord fut le même petit garçon qui était venu me trouver le matin. Il semblait m'attendre. « De la part de mademoiselle Anna, » me dit-il en baissant la voix, et il me remit un nouveau billet. Anouchka m'annonçait que le lieu du rendez-vous était changé. Elle me disait de me trouver dans 1 heure et demie, non pas à la chapelle, mais chez Dame Louise. Je devais frapper à la porte, entrer et monter 3 étages. « Encore une fois, oui ?» me demanda le petit garçon. « Oui, » lui répondis-je, et je me dirigeai le long du rivage. Je n'avais pas assez de temps devant moi pour revenir à la maison, et je ne voulais pas errer par les rues. Derrière les murs de la ville s'étendait un petit jardin avec un jeu de quilles recouvert d'un toit et des tables pour les buveurs de bière. J'y entrai. Plusieurs Allemands d'un âge mûr jouaient aux grilles. Les boules roulaient avec bruit, des acclamations se faisaient entendre de temps à autre. Une jolie petite servante, aux yeux gonflés par les larmes, m'apporta une cruche de bière. Je la regardai en face, elle se détourna brusquement et s'éloigna. « Oui, oui !» murmura un gros bourgeois aux joues vermeilles qui était assis près de moi. « Notre Hamschel est aujourd'hui très affligé, son fiancé s'est enrôlé. » Je la regardai en ce moment. Retirée dans un coin, elle avait une joue appuyée sur sa main et de grosses larmes coulait lentement le long de ses doigts. Quelqu'un demanda de la bière, elle lui en apporta une cruche et alla reprendre sa place. Cette douleur rejaillit sur moi. Je me mis à songer à mon rendez-vous avec tristesse et inquiétude. Ce n'était pas avec un cœur léger que je me rendais à cette entrevue. Je ne devais pas m'y abandonner aux joies d'un amour partagé. Je devais y tenir ma parole, remplir une tâche difficile. Jouer avec le feu est imprudent. Cette expression dont Gargine s'était servi en parlant de sa sœur avait pénétré comme une flèche acérée jusqu'au fond de mon âme. Pourtant, 3 jours auparavant, dans ce bateau que les flots emportaient, n'étais-je pas tourmenté par une soif de bonheur? Maintenant, je pouvais la satisfaire et j'hésitais. Je repoussais ce bonheur, je me voyais obligé de le repousser. Ce qu'il présentait d'imprévu m'effrayait. Anouchka elle-même, avec sa tête ardente, son éducation, cette fille étrange et pleine de séduction, je l'avoue, franchement, elle me faisait peur. Ces sentiments se combattirent longtemps en moi. Le moment fixé approchait. « Je ne puis pas l'épouser, » me dis-je enfin. « Non, elle ne saura pas que je l'ai aimée. » Je me levai, mis un thaler dans la main de la pauvre Hanschen. Elle ne me remercia même pas, et je me dirigeai vers la maison de Dame Louise. Les ombres du soir descendaient déjà dans l'air, et au-dessus de la rue obscure, s'étendait une étroite bande de ciel empourprée par le soleil couchant. Je frappai doucement à la porte. Elle s'ouvrit immédiatement. Je franchis le seuil et me trouvai dans une obscurité complète. « Par ici !» me dit une voix cassée. « On vous attend !» Je fis quelques pas à tâtons, une main osseuse saisit la mienne. « Est-ce vous, Dame Louise ?» demandai-je. « Oui, » me répondit la même voix, « c'est moi, mon beau jeune homme. » La vieille me fit monter un escalier très roide et s'arrêta sur le palier du 3e étage. Je reconnus alors, à la faible lueur que laissait pénétrer une petite lucarne, la figure ridée de la veuve du bourgmestre. Un sourire malin et doucereux entr'ouvrait sa bouche édentée et faisait grimacer ses yeux éteints. Elle me montra une porte. Je l'ouvris d'un mouvement convulsif et la refermai avec force derrière moi. Chapitre 15. La petite chambre dans laquelle je me trouvais était assez sombre et je fus quelques instants avant d'y apercevoir Anouchka. Elle se tenait assise près de la fenêtre, enveloppée d'un grand châle, la tête tournée, presque cachée comme un oiseau effarouché. Je me sentis pour elle une compassion profonde. Je m'approchai, elle détourna la tête encore davantage. « Anna Nikolaïevna !» lui dis-je. Elle se retourna vivement et voulut attacher son regard sur le mien, mais n'en eut point la force. Je m'emparai de sa main, elle resta comme celle d'une morte, immobile et froide dans la mienne. « Je voulais, » dit-elle, avec un effort pour sourire, mais ses lèvres pâles ne s'y prêtèrent pas. « Je voulais... Non, impossible !» murmura-t-elle, et elle se tut. En effet, sa voix faiblissait à chaque mot. Je m'assis auprès d'elle. « Anna Nikolaïevna !» dis-je encore une fois, et à mon tour, je ne pus rien ajouter. Il se fit un grand silence. Retenant sa main dans la mienne, je la contemplai. Affaissée sur elle-même, elle respirait avec peine et mordait doucement sa lèvre inférieure afin de retenir, de ne pas laisser échapper des larmes qui brûlaient de se frayer un passage. Je continuais à la regarder. Il y avait, dans son attitude immobile et craintive, une expression de faiblesse profondément touchante. On eût dit qu'elle était tombée anéantie sur cette chaise d'où elle ne pouvait bouger. Mon cœur fut pénétré de pitié. « Anouchka !» lui dis-je à voix basse. Elle leva lentement ses yeux vers moi. « Oh ! Regarde la femme dont le cœur vient de s'ouvrir à l'amour. Où trouver des mots pour te décrire ?» Il suppliait ses yeux. Ils interrogeaient. Ils s'abandonnaient. Je ne pus leur résister. Un feu subtil courut dans mes veines. Je me penchai sur sa main et la couvris de baisers. Soudain, mon oreille fut frappée d'un son frémissant, semblable à un sanglot brisé. Je sentis passer sur mes cheveux une main qui tremblait comme une feuille. Je levai la tête et j'aperçus son visage. Quelle transfiguration subite s'y était opérée! L'effroi en avait disparu. Le regard s'enfuyait je ne sais où et m'invitait à le suivre. Ses lèvres s'étaient légèrement entr'ouvertes. Son front seul conservait la pâleur du marbre, tandis que les boucles de ses cheveux flottaient derrière sa tête comme si un souffle de vent les avait repoussés. J'oubliais tout, je l'attirais vers moi par sa main qui n'opposait aucune résistance et dont l'impulsion fut suivie par le corps. Puis son châle glissa le long de ses épaules, sa tête s'inclina et se posa doucement sur ma poitrine sous les baisers de mes lèvres ardentes. « Un fou !» murmura-t-elle d'une voix mourante. Et tout à coup, le souvenir de Gagine me frappa comme la foudre. « Mais que faisons-nous » m'écriai-je en me rejetant convulsivement en arrière. « Votre frère sait tout. Il sait que nous sommes ici ensemble. » Anouchka retomba sur la chaise. « Oui, lui dis-je en me levant et m'éloignant d'elle. Votre frère sait tout. Oui, j'ai été forcé de tout lui avouer. »« Forcé ?» balbutia-t-elle. On voyait qu'elle me comprenait à peine. « Oui, oui, » répétais-je avec une sorte de dureté. « Mais c'est votre faute à vous toute seule. Mais quel motif aviez-vous pour livrer votre secret ? Étiez-vous contrainte de tout avouer à votre frère ? Il est venu ce matin et m'a répété tout votre entretien. Je tâchais de ne plus la regarder et marchais à grands pas dans la chambre. « Et maintenant, repris-je, tout est perdu, tout, absolument tout. » Anouchka voulut se lever. « Restez, m'écriai-je, restez, je vous en conjure. Ne craignez rien, vous avez affaire à un homme d'honneur. Mais au nom du ciel, parlez, quelle a été la cause de vos alarmes? Avais-je changé de conduite à votre égard? Quant à moi, lorsque votre frère est venu me trouver aujourd'hui, je ne pouvais faire autrement que de lui avouer où nous en étions ensemble. Pourquoi lui dire tout cela? Pensais-je en moi-même. Et l'idée que j'étais un lâche séducteur, que Gaguine était instruit de notre rendez-vous, que tout était dévoilé, perdu sans retour, me traversait inconsciemment l'esprit. Je n'ai pas fait appeler mon frère cette nuit, dit-elle d'une voix étouffée. Il est venu de lui-même. Mais voyez pourtant à quoi cela vous a mené. Maintenant, vous voulez partir. Oui, il faut que je parte, me dit-elle d'une voix tout aussi faible. Je vous ai prié de venir ici que pour vous faire mes adieux. Et vous croyez peut-être, m'écriai-je, que me séparer de vous ne coûtera rien à mon cœur. Mais alors, pourquoi fallait-il que vous fissiez des confidences à mon frère? Reprit Anouchka d'un ton de stupeur. Mais je vous le répète, je ne pouvais pas faire autrement. Si vous ne vous étiez pas trahi vous-même. Mais je m'étais enfermé dans ma chambre, reprit-elle naïvement. Je ne savais pas que l'hôtesse eût une autre clé. Cette excuse innocente me mit en ce moment presque en colère. Et maintenant, je ne puis y songer sans une émotion profonde. Pauvre enfant, âme honnête et franche. Ainsi, tout est fini, repris-je encore une fois, fini. Et il faut nous quitter. Je la regardais à la dérobée. Le rouge lui montait au visage. La honte et la terreur, oh, je ne le sentais que trop, s'emparaient d'elle. De mon côté, j'allais et venais, tout en parlant comme en proie à un accès de fièvre. Mais il y avait dans mon âme, continuai-je, un sentiment qui commençait à éclore et auquel vous n'avez pas laissé le temps de se développer. Vous-même avez brisé le lien qui nous unissait. Vous avez manqué de confiance envers moi. Tandis que je parlais, Anouchka s'était de plus en plus penchée en avant. Tout à coup, elle tomba à genoux, cacha son visage dans ses mains et se mit à sangloter. Je courus à elle, j'essayai de la relever, mais elle opposait une résistance opiniâtre. Des larmes de femme me bouleversent de fond en comble, alors je m'écriai: Anna Nikolaïevna, Anouchka, de grâce, au nom du ciel, calmez-vous, je vous en conjure. Et je repris sa main dans les miennes. Mais au moment où je m'y attendais le moins, elle se releva subitement, puis, avec la rapidité de l'éclair, courut vers la porte et disparut. Dame Louise, qui entra quelques instants après dans la chambre, me trouva à la même place, comme frappée de la foudre. Je ne pouvais comprendre comment cette entrevue aurait pu se terminer aussi promptement et d'une manière aussi ridicule, avant que j'eusse exprimé la centième partie de ce que je me proposais de dire, avant que j'eusse pu seulement prévoir quelles en seraient les conséquences. Mademoiselle est donc partie? Me demanda Dame Louise en levant ses sourcils jaunes jusqu'au sommet de son front. Je la regardai d'un air hébété et sortis. Chapitre 17. Je traversais la ville et marchais droit devant moi dans les champs. Un dépit violent me rongeait le cœur. Je m'accablais de reproches. Comment ne m'étais-je pas rendu compte du motif qui avait porté la jeune fille à changer le lieu de notre entrevue? Comment n'avais-je pas apprécié ce qui lui en avait coûté pour se rendre chez cette vieille? Comment enfin ne l'avais-je pas retenue? seul avec elle dans cette chambre sombre, isolée. J'avais eu le courage de la repousser et de lui faire de remontrances. Et maintenant son image me poursuivait. Je lui demandais pardon. Sa figure pâle, ses yeux timides et pleins de larmes, ses cheveux en désordre, tombant sur son front incliné, le contact de son front qui s'était appuyé sur ma poitrine. Tous ces souvenirs me mettaient hors de moi, et je croyais encore l'entendre murmurer « À vous !» Je me répétais, j'ai obéi à la voix de ma conscience. Mais non, c'était faux, car bien certainement j'aurais jamais appelé de mes voeux un dénouement pareil. Et puis m'en séparer, vivre sans elle, en aurais-je bien la force? Insensé, misérable, insensé que je suis, m'écriai-je enfin avec colère. Pendant ce temps, la nuit était venue. Je me dirigeais à grands pas vers la demeure d'Anouchka. Chapitre 18. Gaguine vint à ma rencontre. « Avez-vous vu ma sœur ? » me cria-t-il de loin. « Elle n'est donc pas à la maison ? » lui demandai-je. « Non. Elle n'est pas rentrée ? » « Non, mais j'ai un reproche à me faire, » continua-t-il. « Malgré la promesse que je vous avais faite, je n'ai pu m'empêcher d'aller à la chapelle. Je ne l'y ai pas retrouvée. Ne s'y est-elle donc pas rendue ?»« Non, 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 elle n'a pas été à la chapelle. »« Et vous ne l'avez pas vue ?» Je fus obligé d'avouer que je l'avais vue. « Où donc ?» Chez Dame Louise, je l'ai quittée il y a 1 heure. Je pensais qu'elle était de retour. Attendons-la, me dit Gaguine. Nous entrâmes dans la maison et je m'assis auprès de lui. Nous étions silencieux. Une contrainte pénible nous tenait tous les deux. L'oreille tendue au moindre bruit, tantôt nous nous regardions à la dérobée, tantôt nous fixions nos yeux sur la porte. « Oh, j'y tiens plus, » dit-il en se levant. « Elle me fera mourir d'inquiétude. Allons à sa recherche. »« Oui, oui, partons. » Nous sortîmes. Il faisait déjà nuit. « Voyons, comment ça s'est-il passé ?» demanda Gaguine en enfonçant son chapeau sur ses yeux. « Notre entrevue n'a duré que 5 minutes, tout au plus, et je lui ai parlé comme nous en étions convenus. » « Savez-vous, me dit-il, oh, je crois que nous ferions mieux de nous séparer. Cherchons-la chacun de notre côté, c'est le moyen de la rencontrer plus tôt. Mais dans tous les cas, revenez à la maison dans 1 heure. » Chapitre 19. Je descendis rapidement le sentier qui traversait les vignobles et j'entrai dans la ville. Après en avoir parcouru toutes les rues à la hâte et jeté les yeux partout, même sur les fenêtres de Dame Louise, je gagnai le Rhin et me mis à suivre le rivage en courant. Ça et là, j'apercevais des formes féminines, mais point Anouchka. Ce n'était plus le dépit qui me rongeait, c'était une terreur secrète. Plus encore, c'était le repentir que je ressentais, la pitié la plus ardente, l'amour, enfin oui, l'amour le plus tendre. Je me tordais les bras, j'appelais Anouchka au milieu des ténèbres croissantes de la nuit d'abord, à demi-voix, puis de plus en plus haut. Je répétais 100 fois que je l'aimais en jurant de ne point abandonner. J'aurais donné tout au monde pour presser de nouveau sa main froide, pour entendre de nouveau sa voix timide, pour la revoir devant mes yeux. Elle avait été si près de moi. Elle était venue à moi avec tant de résolution, dans toute la franchise de son cœur. Elle m'avait apporté sa jeunesse, sa candeur. Et moi, je ne l'avais pas serrée dans mes bras. Je m'étais privé du bonheur de voir son charmant visage s'épanouir. Cette pensée me rendait fou. Où peut-elle être allée? Mais qu'est-elle pu faire? M'écriai-je dans la rage impuissante de mon désespoir. Quelque chose de blanchâtre m'apparut tout à coup sur le bord de l'eau. Oh, je connaissais cet endroit. Là, sur la tombe d'un homme qui s'était noyé 70 ans auparavant, s'élevait une croix de pierre à demi enfoncée dans le sol et couverte de caractères presque illisibles. Mon cœur battait à se rompre. Je courus à la croix. La forme blanche avait disparu. « Alouchka !» criai-je d'une voix tellement sauvage que j'en fus effrayé moi-même. Mais personne ne répondit. Je me décidai enfin à aller savoir si Gagin ne l'avait pas retrouvé. Chapitre 20. En montant rapidement le chemin des vignobles, j'aperçus de la lumière dans la chambre d'Anouchka. Cette vue me calma un peu. Je m'approchai de la maison. La porte d'entrée était fermée. Je frappai. Une fenêtre qui n'était pas éclairée s'ouvrit doucement à l'étage inférieur et Gagin y passa la tête. « Vous l'avez retrouvée ?» lui demandai-je. « Elle est revenue, » me répondit-il à voix basse. « Elle est dans sa chambre et va se coucher. Tout est pour le mieux. » « Dieu soit loué !» m'écriai-je dans un accès de joie indicible. « Dieu soit loué !» « Maintenant tout va bien. Mais vous savez que nous avons encore à causer ensemble. »« Pas maintenant, » me répondit-il, en fermant à demi la fenêtre. « Une autre fois, en attendant, adieu !»« À demain, » lui dis-je. « Demain, tout se décidera. »« Adieu !» répéta Gagin. La fenêtre se ferma. Je fus sur le point d'aller y frapper. J'avais envie de dire à Gagin à l'instant même que je demandais la main de sa sœur, mais une proposition de mariage à pareille heure. À demain, pensais-je. Demain, je serai heureux. Le bonheur n'a pas de lendemain. Il n'a pas non plus d'hier. Il ne se souvient pas du passé. Il ne pense pas à l'avenir. Il ne connaît que le présent. Et encore, ce présent n'est-il pas un jour, mais un instant. Je ne sais pas comment je revins à Z. Ce n'étaient pas mes jambes qui me portaient. Ce n'était pas un bateau qui me transporta sur l'autre rive. J'étais soulevé par je ne sais quelles ailes larges et puissantes. Je passais devant un buisson où chantait un rossignol. Je m'arrêtai, je l'écoutais longuement. Il me sembla qu'il chantait mon amour et ma félicité. Chapitre 21. En approchant le lendemain matin de la Maison Blanche, je fus frappé de voir les fenêtres ouvertes ainsi que la porte d'entrée. Des morceaux de papier étaient éparpillés sur le seuil. Une servante, son balai à la main, parut à la porte. Je me dirigeai de ce côté. « Ils sont partis !» me cria-t-elle avant que je lui aie demandé si Gagin était chez lui. « Partis !» répondais-je. « Comment cela? Où vont-ils »« Ben, ils sont partis ce matin à 6 heures et n'ont pas dit où ils allaient. Mais n'êtes-vous pas Monsieur N ?»«
Oui. »
« Eh bien, ma maîtresse a une lettre pour vous. » Elle monta et revint une lettre à la main. « Tenez, dit-elle, la voici. » « Il doit y avoir une erreur, c'est impossible, » balbutiai-je. La servante me regarda d'un air stupide et se remit à balayer. J'ouvris la lettre, elle était de Gagin. Pas une ligne d'Anouchka. En commençant, il me priait de lui pardonner ce départ précipité. Il ajoutait que, lorsque je serais de sang-froid, j'approuverais sans doute sa détermination. C'était le seul moyen de sortir d'une position embarrassante et qui pouvait devenir périlleuse. « Hier soir, me disait-il, pendant que nous attendions silencieusement Anouchka, je me confirmais dans la nécessité d'une séparation. » « Il y a des préjugés que je respecte. Je comprends que vous ne pouviez pas l'épouser. Elle m'a tout raconté, et pour mon repos, j'ai dû céder à ses pressantes supplications. À la fin de la lettre, il exprimait le regret qu'il éprouvait de rompre si tôt nos relations amicales. Puis il faisait des vœux pour mon bonheur, me serrait la main et me demandait en grâce de ne pas chercher à les rejoindre. « Oh, il est bien question de préjugés !» m'écriai-je, comme s'il pouvait m'entendre. « Sottise que tout cela, mais de quel droit veut-il me l'enlever ?» Mais je me pris la tête avec désespoir. La servante, s'étant mise à appeler sa maîtresse à grands cris, son effroi me fit rentrer en moi-même. Je me sentis sous l'empire d'une pensée unique, les retrouver à tout prix. Supporter un semblable coup, se résigner à un dénouement de ce genre était vraiment au-dessus de mes forces. J'appris de l'hôtesse qu'ils étaient partis à 6 heures pour descendre le Rhin en bateau à vapeur. Je me rendis au bureau, on me dit qu'ils avaient pris des places pour Cologne. Je retournai chez moi pour emballer mes effets et suivre immédiatement leurs traces. Comme je passais devant la maison de Dame Louise, je m'entendis appeler. Je levai la tête et aperçus la femme du bourgmestre à la fenêtre de la chambre où la veille j'avais vu Anouchka. Sur ses lèvres errait ce sourire déplaisant que je lui connaissais. Elle me fit un signe d'appel. Je me détournai et me disposais à passer outre, mais elle me cria qu'elle avait quelque chose à me remettre. Ces paroles m'arrêtèrent et j'entrai dans la maison. Comment vous exprimer mon émotion lorsque je me retrouvais dans cette petite chambre? À vrai dire, commença la vieille en me montrant un billet, il aurait dû vous remettre cela que si vous étiez venu chez moi de votre propre mouvement. Mais vous êtes un si beau jeune homme, allez, tenez. Je pris le billet, je lus sur un petit morceau de papier les lignes suivantes, tracées à la hâte au crayon. Adieu. Nous ne nous reverrons plus. Oh, ce n'est pas par fierté que je m'éloigne, c'est que je ne puis faire autrement. Hier, lorsque je pleurais devant vous, si vous m'aviez dit un mot, un seul mot, je serais resté. Vous ne l'avez pas prononcé. Qui sait? Peut-être est-ce mieux que cela ait été ainsi. Adieu, pour toujours. Elle n'avait attendu qu'un seul mot. Insensé que j'étais, mais ce mot, je le répétais la veille avec des larmes, je le jetais au vent, je le criais au milieu des champs déserts, mais je ne lui avais pas dit, je ne lui avais pas dit que je l'aimais. Oui, il m'avait alors été impossible de prononcer ce mot. Dans cette chambre fatale où je m'étais trouvé vis-à-vis d'elle, je n'avais pas encore nettement conscience de mon amour. Il ne s'était pas éveillé alors même que dans un silence morne et stupide, je me tenais auprès de son frère. Il n'avait éclaté, subi et irrésistible que peu d'instants après, lorsque, épouvanté par la pensée d'un malheur, je m'étais mis à la chercher en l'appelant à grands cris. Mais alors, déjà, il était trop tard. « C'est impossible, me dira-t-on. » « Oh, je ne sais si c'était possible, mais je sais que ce fut ainsi. Anouchka ne serait pas partie si elle avait eu la moindre coquetterie, si elle se fût trouvée dans une position essentiellement fausse. Une situation indécise que toute autre femme eût acceptée, elle l'avait trouvée intolérable. Et ceci ne m'était pas venu à l'esprit. » Mon mauvais génie, lors de ma dernière entrevue avec Gaguine, sous sa fenêtre obscure, avait retenu cet aveu qui était sur mes lèvres. Et ainsi, le dernier fil que je pouvais saisir encore s'était échappé de mes mains. Je retournai le même jour à elle avec mes bagages et partis pour Cologne. Je me souviens qu'au moment où le bateau quittait la rive, et où je disais adieu à toutes ces rues, à tous ces lieux que je ne devais plus oublier, j'aperçus Hanschen, la petite servante. Elle était assise sur un banc près du rivage. Quoique encore pâle, sa figure n'était plus chagrine. Un beau jeune garçon était à côté d'elle et lui parlait en riant. Tandis qu'à l'autre bord du Rhin, ma petite Madone, perdue dans le sombre feuillage du vieux frêne, me suivait tristement du regard. Chapitre 22 et dernier. À Cologne, je retrouvai la trace de Gaguine et de sa sœur. J'appris qu'ils étaient partis pour Londres. Je me dirigeai immédiatement vers cette ville, mais toutes les recherches que j'y fis restèrent infructueuses. Longtemps, je ne me laissai pas décourager. Longtemps, je fis preuve d'une persistance opiniâtre, mais il me fallut enfin renoncer à tout espoir de les rejoindre. Et je ne les revis plus. Je ne revis plus Anouchka. On me donna plus tard des nouvelles assez vagues de son frère. Quant à elle, je n'en ai jamais plus entendu parler. Je ne sais même pas si elle vit encore. Il y a quelques années, dans un voyage que je fis, j'entrevis un instant, à la portière d'un wagon, une femme dont la figure avait une ressemblance avec ses traits que je n'oublierai jamais. Mais cette ressemblance n'était sans doute que l'effet du hasard. Anouchka est demeurée dans mon souvenir la jeune fille qu'à notre dernière entrevue je vis, pâle et tremblante, s'appuyant au dos d'une chaise en bois dans l'angle obscur d'une chambre isolée. D'ailleurs, je dois avouer que le cours de ma douleur ne fut pas de longue durée. Bientôt, j'en vins à me persuader que le sort m'avait été favorable en empêchant mon mariage avec elle, et qu'une femme de ce caractère ne m'eût certainement pas rendu heureux. J'étais jeune encore à cette époque, et ce temps si court et si restreint qu'on nomme l'avenir me semblait infini. Ce que j'ai rencontré une fois sur ma route, me disais-je, ne puis-je pas le retrouver de nouveau, plus charmant et plus complet? J'ai connu depuis d'autres femmes, mais ce sentiment si tendre que Janice Anouchka m'avait inspiré ne s'est plus renouvelé. Non, aucun regard n'a remplacé pour moi le regard de ses yeux attachés sur les miens. Il ne m'a plus été donné d'étreindre contre ma poitrine un cœur au battement duquel le mien répondit avec une ivresse aussi joyeuse. Condamné à l'existence solitaire de l'homme errant, sans foyer domestique, je touche aux jours les plus tristes de la vie. Mais je conserve, comme une relique, ces deux petites billets et une branche desséchée de géranium, celle qu'un jour elle me jeta par la fenêtre. Elle exhale maintenant encore une faible odeur, tandis que la main qui me l'a donnée, cette main que je ne puis presser sur mes lèvres qu'une seule fois, est peut-être depuis longtemps réduite en poussière. Et moi-même, que suis-je devenu? Qu'est-il resté en moi de l'homme d'autrefois, de toutes ces agitations, de mes projets, de mes espérances ambitieuses? Ainsi, la senteur légère d'un brin d'herbe survit à toutes les joies, à toutes les douleurs humaines. Survit à l'homme lui-même.